VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est midi, du moins à Kinshasa. Bonjour à tous. Félix Tshisekedi, nouveau président de la République de la RDC, sera la semaine prochaine aux États-Unis. Il sera reçu notamment par le chef de la diplomatie, Mike Pompeo. Contrairement à la coutume, pour un chef d'État, ce n'est pas la Maison-Blanche qui a rendu publique cette visite, ce qui semble suggérer qu'aucune rencontre n'est prévue à ce stade avec le président américain Donald Trump. Pendant sa visite du 3 au 5 avril, Félix Tshisekedi sera reçu par le secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres membres du gouvernement et hauts responsables américains, a fait savoir le porte-parole du département d'État américain. Le Rassemblement national démocratique, RND, principal allié du parti FLN, d'Abdel Aziz Bouteflika, a demandé mardi la démission du président algérien, affaibli par la maladie et contesté par la rue au lendemain de l'appel du plus haut gradé de l'armée à son départ. Dans un communiqué reçu par l'AFP et signé par son secrétaire général, l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya, récemment limogé, le RND recommande la démission du président de la République dans le but de faciliter la période de transition. Hier déjà, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a proposé que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne simplement. Le point avec Raïssa Girondin.
Le général Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, est considéré comme l'un des personnages les plus puissants du régime, a prôné le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, applicable quand le président, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ou en cas de démission. Ce sont les deux chambres du Parlement qui, sur proposition du Conseil constitutionnel, doivent voter à la majorité des deux tiers l'état d'empêchement. La balle est donc dans le camp de M. Bouteflika. S'il choisit de démissionner, ou dans celui du Conseil constitutionnel Taïb Belaïz, à qui il revient de lancer la procédure pour déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 1999, M. Bouteflika est affaibli par les séquelles d'un AVC. L'annonce de sa candidature à un cinquième mandat a déclenché des manifestations massives dans le pays. Face à la pression de la rue, le président a renoncé à cette candidature et a reporté sine die la présidentielle prévue le 18 avril. Il a prolongé de fait son mandat actuel, ce que rejettent toujours les manifestants.
Au Comores, le président sortant Azali Assoumani a été réélu dès le premier tour. Selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale, l'opposition dénonce, je cite, un coup d'État. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Azali Assoumani a recueilli 60,77% des suffrages, devançant son principal adversaire Mahamoudou Ahmada, qui a obtenu 14,62%. Ce dernier a immédiatement rejeté les résultats, dénonçant un coup d'état militaire à travers une élection présidentielle. Il a appelé la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection de M. Azali. Un peu plus tôt, la plateforme citoyenne, un collectif d'ONG, avait affirmé que les résultats n'auront aucune crédibilité. Les observateurs de l'Union africaine de la COMESA ont déploré des incidents lors du scrutin. Ils ont soutenu que la situation empêche de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Le camp présidentiel a balayé d'un revers de main toutes ces critiques.
La scène politique togolaise est en ébullition. La C14, coalition de 14 partis de l'opposition, a implosé après la défection de plusieurs membres importants. Cette coalition avait vu le jour à la faveur des manifestations massives demandant le départ du président Faure Gnassingbé en 2017. Quelles sont les raisons de ce départ et ses conséquences possibles? Raïssa Girondin a joint à Lomé Dani Aïda, analyste politique et membre de la société civile togolaise.
Après les élections législatives du 20 décembre 2018, les membres de cette coalition n'attendaient plus sur beaucoup de questions, notamment leur participation au processus politique, puisque, vous savez, une partie de cette opposition était présente à l'Assemblée nationale avant, donc les rapports de force étaient différents. Et par la suite, le fait que l'opposition ait boycotté ces élections.
Certains leaders de l'opposition ont dit avoir pris de l'argent de l'extérieur. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça a jeté le doute sur l'intégrité de cette coalition?
Il y aurait eu des cadeaux entre griffes de certains chefs d'État de la sous-région africaine. Sinon, la répartition n'aurait pas été au bout de certains. On a vu d'autres qui n'ont pas infirmé cela, mais en même temps, on dit qu'il y avait d'autres raisons. Donc, notre équipe est confirmée, c'est qu'il y a deux partis qui formellement ont dit qu'ils quittent la coalition, y compris la ANC du Jean-Pierre Fabre. Il y a aussi le parti de Togolais et Nathanaël Olympio. Beaucoup d'autres ne participent plus aux réunions. Donc, je vois que la forme de discorde est allée assez loin.
Mais l'opposition togolaise a-t-elle les moyens de ses ambitions?
L'opposition est un homme battu, mais qu'elle n'arrive pas à capitaliser pour le moment, parce que sur le plan stratégique, on voit qu'elle a du mal à s'organiser et à formuler des propositions concrètes, par exemple en termes de suivi ou de pression pour la mise en œuvre des réformes pour lesquelles le pouvoir s'est engagé depuis longtemps. Ses relations avec la CEDEAO qui a formé des propositions pour la révision constitutionnelle, ses relations ne sont pas au beau fixe. Donc, je pense que l'opposition souffre surtout d'une carence en matière de stratégie. Mais on espère que les prochains développements avec notamment le retour au Togo de l'ancienne ville intérieure qui est maintenant carrément inscrit dans l'opposition, François Bocco pourrait contribuer à résorber cette situation.
Oui, l'ancien ministre François Bocco était en exil en France durant 14 ans. Quelles conséquences pourrait avoir ce retour sur la scène politique togolaise?
Pour avoir été un ministre de l'Intérieur, pour avoir appartenu au Fonds de défense et de sécurité du Togo, avec le soutien dont il a bénéficié de certaines diplomaties occidentales, on pense que c'est un acteur majeur dont l'implication dans le jeu politique au Togo pourrait changer beaucoup les données. C'est quelqu'un qui ne nie pas avoir participé à ce pouvoir, à ce régime-là, mais qui aujourd'hui est carrément rangé du côté du peuple togolais, d'une grande partie de la classe politique qui revendique des changements. Certaines de ses proches ont même dit clairement qu'il doit se porter candidat à l'élection présidentielle 2020. Je pense que ça va chambouler la géopolitique déjà nationale et puis les forces pourraient faire en sorte que l'alternance et les Togolais ont souvent revendiqué plus en faire venir.
Dani Aïda, analyste politique, joint à Lomé. 5 cas de choléra ont été confirmés au Mozambique, frappés à la mi-mars par un cyclone et des inondations qui ont fait 468 morts dans ce pays pauvre d'Afrique australe, ont annoncé aujourd'hui les autorités. Dimanche, le ministre de l'Environnement Celso Correa avait prévenu qu'une épidémie de choléra serait inévitable compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d'hébergement où s'entassent des rescapés des inondations. Selon donc un dernier bilan fourni par les autorités mozambicaines aujourd'hui, les intempéries ont fait au moins 468 morts dans le pays. La Syrie a demandé hier une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour discuter de la souveraineté sur le plateau du Golan annexé par Israël et que le président américain Trump considère aussi maintenant comme israélien. Pour leur part, les 5 pays européens membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et la Pologne, ont rejeté hier dans une déclaration conjointe cette décision américaine. Abdourahman Dia.
En application des résolutions de l'ONU, nous ne reconnaissons pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés depuis 1967. Incluant le plateau du Golan, ont souligné les ambassadeurs de ces pays européens à l'ONU. Le plateau du Golan a été conquis en 1967 par l'État hébreu, qu'il a ensuite annexé en 1981. La décision annoncée lundi par le président Donald Trump de reconnaître l'annexion du Golan est une violation très grave du droit international, a souligné l'Indonésie, qualifiant cette décision de totalement inacceptable. L'Arabie Saoudite, pour qui le Golan demeure une terre arabe syrienne occupée, et l'Irak ont condamné l'annonce de Trump, emboîtant le pas au Koweït, à la Jordanie et au Liban. L'Égypte avait rappelé la résolution 497 de l'ONU rejetant l'annexion du Golan par Israël. La Ligue arabe a estimé que cette décision américaine est nulle et non avenue. Après les décisions sur Jérusalem puis sur le Golan, l'initiative de paix israélo-palestinienne dirigée par Jared Kushner, conseiller et gendre de Donald Trump, semble avoir pris du plomb dans l'aile.
De nouvelles roquettes ont été tirées dans la nuit de mardi à mercredi de Gaza en direction d'Israël, suscitant des frappes de représailles de l'armée israélienne dans le territoire palestinien et mettant en question une trêve fragile instaurée au lendemain d'un nouvel accès de violence. La poursuite des violences place le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou face au choix délicat de la riposte moins de 2 semaines avant des élections parlementaires à l'issue incertaine. Et pour terminer, le président turc Recep Recep Tayyip Erdogan affronte dimanche des élections locales en pleine tempête économique qui l'a contraint à mener une campagne acharnée pour éviter un vote sanction contre son parti, notamment à Istanbul et Ankara. Dimanche, près de 58 millions d'électeurs turcs seront donc appelés à se rendre aux urnes pour élire leur maire et leur mouta, sorte de chef de quartier, avec une attention particulière pour les 30 municipalités qui constituent le cœur économique du pays. Fin de ce journal. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.